Alors, est-ce que tu peux donc te présenter en tant que musicien et ton background avant Soul Memories?
Alors, moi, c'est donc Antoine, je suis batteur de Soul Memories. Écoute, ça fait au moins 20 ans que je fais de la batterie maintenant. J'ai commencé assez jeune. J'ai toujours évolué dans une sphère rock. Alors, j'ai joué du punk rock, du hardcore, du metal, puis du prog, puis à nouveau du punk, puis à nouveau du prog. Donc, j'ai été assez varié dans mon style de jeu. Enfin, j'ai pas mal peaufiné du coup ma technique, quoi. Je suis parti dans des trucs assez différents. Et puis pour Stone Memory, ça fait maintenant depuis 2007 en fait, on a monté le groupe avec mon frangin, donc Baptiste le guitariste.
Ouais.
Et puis ça fait 10 ans maintenant et on en est donc à notre troisième album, Paradox, qui va sortir le 27 octobre.
D'accord. T'es musicien fétiche, enfin voilà, si t'avais quelques références qui pour toi. Enfin, plutôt dans ton instrument.
Alors, en fait, j'ai autant des... Ouais, je suis un grand fan de vieux batteurs, de trash, pas vieux batteurs. Si on peut dire, genre, j'aime beaucoup Nick Menza, c'était vraiment pour moi un pilier du genre. Quand il est dans Megadeth. Mmh. C'est vraiment lui, à l'époque où j'étais minot, où je me suis dit, tiens, je vais faire de la batterie, quoi, c'est Nick Menza. Il m'a mis une bonne tarte. Après, avec le temps, j'en ai découvert d'autres. J'ai découvert Progressive, donc il y a forcément eu Matt Portnoy, qui m'a beaucoup influencé à l'époque. Jason Rouleau de Symphonix aussi, puisque Symphonix reste une influence majeure déjà pour Stone Memories, puis même pour moi, en fait, son jeu de batterie m'a toujours parlé. Et plus récemment, là, j'essaie d'évoluer avec mon temps, on va dire. Et j'aime beaucoup des gars comme Matt Alburn de Periphery, qui vraiment apporté un truc en plus ces dernières années, ce côté un peu presque batteur de gospel dans du métal, quoi. C'était pour moi assez novateur, ça m'a beaucoup impressionné. J'essaie de surfer un petit peu dans ce courant-là, quoi. C'est pour le coup mon influence du moment.
D'accord, ok. Finalement, question elle beaucoup plus simple, quoi de neuf depuis 4 ans?
Le truc neuf en fait, hein, parce que ça, on a fait un sacré tour sur nous-mêmes. En fait, il y a 4 ans, suite à Wooden Consequence, il y a encore eu des problèmes de line-up. On avait du mal à garder un bassiste, c'était un bassiste intérimaire, quoi. Il jouait, puis après il pouvait plus, puis après on en trouvait un autre, puis rebelote. Au moment, ça s'est essoufflé. Nous-mêmes, on nous a un peu blasé, on va pas se mentir. On avait besoin de faire un break, donc on s'est fait un break pendant un an. Tout au bout d'un an, le bassiste nous a rappelé en nous disant: bon, les gars, j'ai de la nouvelle compo. Il y a moyen de faire quelque chose de neuf. Par contre, on remet à plat le groupe, on remet à plat vraiment le style, on repoffine tout ça, on repart sur une nouvelle base. Donc, parti pris, on joue pas d'anciens morceaux, on fait du neuf. Déjà pour nous stimuler, parce qu'au moment, quand t'es musicien, t'as besoin de ça aussi, même si t'aimes tes morceaux que tu joues depuis 5-6 ans, t'as besoin de faire quelque chose de nouveau, quoi. Faut pas être redondant. Et vu qu'on avait tous quand même évolué aussi dans nos styles respectifs, sur nos instruments respectifs, il y avait besoin de faire quelque chose de nouveau pour tenter de nouvelles choses. Donc c'est là qu'il a commencé la compo du nouvel album. Voilà. On l'a mis en place petit à petit ensemble, par maquette interposée, et de temps en temps des répètes pour faire de la mise en place. Suivi des textes dans la foulée. À chaque fois qu'il y avait un titre, il y avait des lignes de chant qui allaient avec, puis je compose les deux. Et derrière, Najib a porté un texte. Certaines fois, c'était moi aussi, j'ai écrit quelques textes. Et puis ça s'est fait petit à petit, puis on... Studio, Record Beat Studio en Haute-Loire, où on a fait l'album en début d'année, puis le clip, avec Bloqué de production. J'essaie de te faire l'historique raccourci, là.
Ouais,
et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui où on est à Paris, quoi.
D'accord.
Et on fait une journée promo et on est bien emballé parce que on a de plus belles cartes en main, on va dire, qu'à l'époque. On est mieux considéré. On a un manager aussi, Christophe Souza de Douit. Mmh. Et là, pour le coup, c'est un vrai plus. C'est peut-être sûrement la plus grosse carte qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, c'est ça, quoi. C'est le fait qu'on n'est pas juste tout seul. On a des gars avec qui on peut bosser, on a des collaborations, quoi.
D'accord. Donc tu le disais, vous passez de quatuor à trio avec Olivier Delmas qui quitte la scène. Et donc vous avez pris la décision, ton frère a pris la décision de dire: ok, les parties de basse, c'est moi qui les gère.
Alors, non, en fait, pour info, Olivier Delmas, c'est le bassiste qu'on a maintenant.
C'est pas
lui qui est parti.
Ouais. Et il apparaît pas sur les photos?
Non, parce qu'il est arrivé récemment, donc oui, effectivement, l'album, on était que 3. Et même le clip, c'est une question de planning, en fait. Ça fait pas très très longtemps qu'on joue avec lui, ça fait quelques mois seulement.
D'accord.
On avait déjà tourné le clip, c'était juste après, c'est vraiment plus ou moins pendant les, ba- les, ba- l'élaboration du clip et après le tournage, quoi. Enfin, là, ça c'est vraiment, on a commencé vraiment à jouer avec lui à ce moment-là, donc ça fait depuis, bah ouais, depuis quoi, 5 mois.
Mais donc il est un peu arrivé après la pour l'album, il est arrivé un peu après la bataille.
Ah bah complètement, ouais, c'est, en fait, l'album, on avait commencé avec un autre gars, ça marchait, puis bon, bah, le gars, il s'est mis quand même une certaine pression qui n'avait pas forcément lieu d'être, c'est un peu dommage, du coup, il nous a lâché. Il nous a mis un peu dans l'embarras, on s'est senti con, puis à un moment, bah voilà, on a parlé, on s'est dit, bon, on a un album prêt, on va pas une fois de plus se mettre en stand-by à cause de ça, donc on va en studio, c'est Baptiste qui a fait la basse, parce qu'il peut la faire, voilà, c'est assumé. Du coup, sur le clip, bah, on est aussi que trois, mais bon.
D'accord, mais vous
êtes... comme ça, il y avait l'opportunité de faire ce clip à ce moment-là, on avait bien planifié en fait les choses sur le long terme, mais bon, okay. On était obligé de faire avec en fait.
Mais donc vous êtes pas posé la question de dire on reste en power trio quoi?
Non, parce qu'à un moment on pense aussi scène, parce qu'on est un groupe qui aime faire des... On fait, voilà, on écoute quand même quand tu fais de la musique, en tout cas, pour notre part c'est de faire de la scène aussi, mais à un moment... Tu as quoi, tu as samplé ta basse, on a déjà énormément de claviers samplés, alors ça c'est assumé parce que ça reste un instrument de fond, par contre la basse et tout, les riffs qui sont joués guitare-basse, enfin, ça aurait fait un vide énorme sur scène, on n'avait pas envie de ça, quand on voulait un bassiste au moins pour la scène, donc petit à petit, c'est que, à la base c'était le rôle d'Olivier, petit à petit il commence à prendre ses marques dans le groupe, ça se passe super bien, on espère que ça va développer plus, mais dans l'immédiat on avait surtout besoin de quelqu'un pour faire la scène quoi.
D'accord, non, je comprends. Et je souhaite à Olivier Delmas, donc qui est bien dans le groupe, de durer.
Bah de bien y rester.
Ouais.
Ça serait cool. Parce que c'est vraiment une bonne personne, c'est un très bon musicien, donc ce serait bien que ça perdure, quoi. En tout cas, c'est bien parti.
C'est un Lyonnais comme vous ou...
Ouais, il est de la région aussi, lyonnaise.
Ok, bon, cool. Si on parle aussi un peu business, si je regarde, alors, le premier album, c'était Pervade.
Ouais.
Le deuxième, c'est Brennus. Le troisième, c'est vous en autopromo. En autoproduction, pardon.
C'est Do It, le troisième. Ouais.
Ah, vous êtes signé chez eux plus que uniquement pour la promo, pour le billet. D'accord, vous êtes aussi sur. D'accord.
Bah, ils nous managent et du coup, enfin, en gros, on est sous Do It Agency, quoi. C'est notre label. Et on est distribué par Season of Lift.
D'accord.
Pour ce nouvel album.
Donc l'évolution du business, vous êtes chez Do It parce que c'est bien tombé et que vous bossez avec eux pour le groupe en général ou parce que vous aviez d'autres propositions, ça vous semblait moins intéressant, comment ça s'est un peu passé depuis
c'était une belle opportunité en fait. Nous on a un contrat, on est toujours en contact avec Alain Ricard, il n'y a pas de souci, on a toujours nos deux premiers albums qui sont distribués chez lui. Et à un moment, on avait envie de taper plus parce que Brennus, c'est un tas super, mais ça reste un distributeur. On s'est dit, bon, ça serait bien quand même qu'on travaille avec quelqu'un qui peut nous apporter d'autres choses. Donc là, pour le coup, Christophe, il a l'aspect management. Et en fait, il avait fait à l'époque. Donc c'était aussi un des éléments qui nous a fait relancer la machine. Hein, c'est quand on est tombé là-dessus. Il a proposé en fait des demandes de candidature qui, comme quoi, il voulait. Manager des nouveaux groupes, chercher des nouveaux talents, quoi, tout simplement. Et bah, on a tenté, quoi, voilà. On a envoyé un truc, un pack promo, quoi, on a joué le jeu, puis il a une sélection d'un paquet de groupes, je sais pas combien en tout, mais. Puis bah, on est ressorti. Il nous a choisi, nous. Donc, du coup, c'est grave cool, quoi, on va pas se mentir, hein. C'était une belle opportunité, quoi, mais ça s'est fait comme ça.
D'accord. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire des sessions d'enregistrement de Paradox et questions complémentaires? Donc vous avez un producteur, vous avez une personne qui s'occupait du mastering mixage, dont je ne sais plus le nom malheureusement, et vous avez gardé le contrôle de la production. C'est important pour vous?
Ouais, bah en fait, après ça reste une collaboration. En fait, il a mis sa patte, donc on a enregistré chez Olivier Didion, donc le recording studio en Haute-Loire. Et c'est un pote de longue date déjà, donc on avait déjà bossé avec lui sur le premier album. Moi depuis, il a graffé du chemin et forcément, comme tout le monde, il évolue, il a pris du galon, il a fait un nouveau studio, il a retapé une grange, enfin un truc vraiment pro, donc c'est devenu vraiment un studio à part entière. Donc c'est pour ça qu'on s'est relancé avec lui, parce qu'on connaissait déjà la personne. C'est quand même plus simple, plus facile quand tu bosses comme ça avec quelqu'un pendant 3 semaines, 1 mois, voire même plus après quand tu comptes le mixage. Et déjà, ne serait-ce que pour les prises, enfin, moi en tout cas en tant que batteur, pour les prises son, j'aime bien échanger avec le gars. suis pas fermé à des propositions par un ingé son quand il a du, surtout quand il a du talent et de l'expérience comme lui, quoi. Donc ça, c'était assez important pour nous, et ça s'est bien goupillé dans ce sens-là, quoi. Donc, on gardait forcément la main sur notre prod, c'est notre musique, on veut qu'elle sonne de telle ou telle façon, donc on lui donnait nos, dans l'ligne directrice, on va dire. Mais à un moment, bah, lui, il a aussi l'aspect technique, quoi. C'est lui l'ingé son, c'est lui qui gère le truc, et c'est lui, par exemple, qui fait que ma batterie sonne de cette façon, quoi. J'ai expliqué le type de son que je voulais, il a bossé pour qu'elle sonne comme ça, quoi. Il a mis son talent. Et il a aussi proposé des choses.
Mais sur le principe, vous n'avez pas bossé de façon très différente par rapport à Blind Consequence?
Alors, pour mettre en place l'album, si. Pour le coup, c'était Blind Consequence, tout comme le premier, même si Baptiste a toujours été le compositeur, ça se calait tout en répète. Il nous montrait les riffs, ça développait comme ça, ça buffait un peu, et il avait quand même le gros de la compo, hein, mais ça restait quand même assez, assez traditionnel, quoi. On est en répète, on regarde le morceau comme ça, et on bosse passage par passage. Alors que là, pour Paradox, ça, on a quand même évolué aussi niveau technologie, hein. Il a travaillé avec des maquettes. Il nous a enregistré des maquettes, en fait, avec une batterie programmée, assez sommaire, mais où tu retrouvais l'idée du riff. Et après, chacun de notre côté, on y bossait. Il enregistrait aussi une ligne de chant pour Najib, et hop, il écrivait son texte comme ça aussi, celui. Et on se voyait, on répète que vraiment pour mettre en place le morceau, donc forcément après on avait un rôle d'arrangeur, autant d'agir pour ces lignes de chant que moi niveau batterie, bah là c'est plus une machine, c'est un être humain, donc forcément il y a un jeu différent, puis bah je mettais ma patte. Donc là il y avait d'adaptation à faire sur certains riffs, ça pouvait bouger. Donc là il y a vraiment la partie arrangement pour le processus de l'album. Et après, une fois que c'était tout calé, c'est là qu'on allait en studio. On avait déjà booké le studio à l'avance, en fait. On a pris les devants sur ce coup-ci. Autant pour le studio, pour la pochette, même pour le clip, tu vois. L'album était à peine masterisé, on était déjà en tournage. On a pris les devants. C'était quand même le but, quoi. Avec l'expérience qu'on a des deux premiers albums, on savait un peu comment ça se goupillait niveau planning. Donc on a fait ça.
Et finalement, vous êtes allé plus vite ou pas?
Aller plus vite?
Ouais.
Alors, ouais. Franchement, oui, carrément, on peut dire que la mise en place a été beaucoup plus rapide. Parce que, au fur et à mesure, en fait, qu'il composait son album, il nous envoyait à chaque fois les maquettes. Et d'ailleurs, c'est simple, tu écoutes l'album de la 1 à la 10, c'est dans l'ordre où elles ont été composées. Donc, t'as aussi une cohérence à ce niveau-là, quoi. T'as une évolution. Et ouais, franchement, ça allait vachement vite. Ça allait vachement vite. Après, on a quand même pris un peu le temps aussi de le répéter, parce qu'on n'est pas non plus des machines, quoi.
D'accord. Mais
c'est le gros du boulot. Depuis le début de l'idée, on fait un nouvel album, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire d'un an, un an et demi. Ouais, un an et demi, on va dire.
D'accord, ok. Donc, tu le disais, j'avais posé la question, quel a été le premier titre composé, donc c'est la première chanson, c'est l'avantage.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que ensuite vous en avez discuté, est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, ça a coloré le reste de l'album?
Compositeur, lui il a sa propre logique. Je pense qu'à chaque fois qu'il démarre un nouveau morceau, il savait plus ou moins quel type de morceau ça allait être par rapport à sa position dans l'album. Tu vois, c'est pas anodin si la cinquième elle est plus calme et qu'elle commence par une intro jouer à la guitare acoustique. C'était parce que voilà, ça fait un petit peu un petit break. Et rebelote après la 6, morceau hyper efficace tout de suite derrière pour contrebalancer avec ce break. Donc, pour le coup, c'était sa logique à lui. Nous, on a suivi, on lui a fait confiance, en fait, tout simplement.
D'accord. Est-ce que tout ce qui a été composé est apparaît sur l'album, ou vous avez dû faire une sélection?
Non, c'est tout. Il y a vraiment eu l'idée d'aller jusqu'à 10 morceaux. Et on est allé jusqu'à 10 morceaux. Il n'y en a pas eu un de plus qui a été abandonné en chemin. Il y a vraiment les 10 morceaux de l'album, ils sont là.
D'accord. Tu en parlais, donc d'après ce que j'ai compris, vous partagez pas mal les activités au niveau paroles.
Oui, enfin, ça reste quand même Najib le principal parolier. Hein. J'ai écrit deux textes, les deux dernières d'album, Lack of Clarity et Only the Brave. Au moment, voilà, il avançait sur ses textes. Fallait qu'on, comme je t'ai dit, on avait quand même une deadline pour le studio. Donc il m'a demandé si je voulais filer un coup de main, si ça m'intéressait, parce qu'il sait que j'écris des textes aussi, j'ai d'autres projets. Donc j'ai l'habitude d'écrire des textes, donc je lui dis bah avec plaisir, ça me fera participer un peu plus à ce groupe, quoi, donc Mais bon, on a toujours quand même échangé. Je me suis pas lancé dans mon coin à écrire tout seul. Tout comme Nazim, en fait, n'écrivait pas dans son coin tout seul. Il nous épargne ses idées. Voilà, les mecs, pour ce morceau, j'ai envie d'écrire sur tel sujet. Ça s'est quand même fait comme ça. Après, il n'y avait pas de soucis, quoi. On lui faisait confiance.
D'accord, ok. Comment vous avez bossé l'aspect visuel de cette pochette, donc qui surprend un peu, qui est signé Stan Decker?
Ouais.
Alors pourquoi vous l'avez contacté lui et quel brief vous lui avez donné au moment où vous avez décidé de travailler avec lui?
Alors, en fait, on le connaissait depuis déjà pas mal d'années, déjà de son groupe où il était bassiste, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait AWACS. On avait échangé avec ces gars pour d'éventuels concerts, parce qu'on était quand même un peu dans le même délire metal prog à l'époque. Après, on l'a vu évoluer déjà grâce à Facebook et tout, on a vu tout ce qui sortait. Il a même fait des pochettes de groupes qu'on aime bien, genre Random Place. On a vu que c'était lui qui avait fait les derniers en date. On se dit, ah ouais, quand même, le mec, il a grave du level, en fait. Donc, très impressionné par son style. Donc, on s'est dit, bon, bah, la question s'est pas trop posée, en fait. Directement, on s'est dit, ouais, on va appeler Stan. On va lui proposer le projet. Et pour le coup, on lui a donné juste le titre de l'album, on lui a laissé carte blanche. On lui a évoqué un peu le plan du passeur d'âme, ce côté un peu vie après la mort, le côté un peu mystique, mais tout en restant moderne. On voulait pas un truc trop rétro, on voulait vraiment quelque chose de très contemporain. Et il a assez bien compris l'idée, et après c'est lui qui a proposé tout ce jeu de couleurs, l'escalier qui tourne en rond, qui représente un petit peu le symbole de l'infini, enfin moi je l'interpréterais comme ça. Mais tout ça, ouais, ça vient de sa tête, quoi, ça vient de sa créativité.
C'est la seule proposition qu'il vous a faite, ou il a fait plusieurs choses et vous avez choisi celle-là?
Non, dès le début, il y avait déjà ces thèmes-là, il y avait déjà ce passeur d'âme. Après, il n'y avait pas tout de suite les escaliers de mémoire. Il n'y a pas eu 15 000 propositions, hein. Il nous a envoyé un premier jet. On a tout de suite été bien emballé par l'idée. On lui a dit clairement, ouais, en fait, ça nous va. Vas-y, développe, quoi. Développe le truc à fond, hein. Et ça a marché.
Parce que
ça a pas été compliqué.
Ouais, il semble que vous soyez pas super fan des pochettes un peu peut-être clichés dans le metal prog. Et déjà, Blind Consequence, c'était voilà, un travail sur des montages photos, etc. Vous voulez sortir un peu du lot, quoi.
Ouais, après c'est. En fait, au final, je pense pas que ce soit forcément celle qui sort le plus du lot, mais elle colle mieux avec notre musique que ce qu'on a pu avoir par le passé. Là, sur le premier album, de toute façon, c'était trois graphies différents à chaque fois. Les trois, elles sont bien. Les trois, il y a du bon travail de graphie, c'est rien à redire. Mais là, sur Strange Order, t'as cette main, elle est assez trash, c'est très sanglant. Du coup, c'est même trop violent, en fait, par rapport à la musique. Donc, c'est, d'ailleurs, on l'a assez souvent ressorti dans certaines chroniques. Ils n'avaient pas tort, les mecs. Mais nous, on s'est dit, ouais, c'est vrai qu'au final, ça ne nous correspond pas trop. Après, le deuxième, on a fait un travail plus sur de la photo. Donc, t'as un photographe qui joue aussi du graphisme qui a pris cette photo sur des. T'as rajouté le flingue et les photos qui volent en plus, tu vois. Il vous a fait un peu un mix. C'est un mix de graphisme 3D et de photo, d'une vraie photo, quoi.
D'accord.
C'est beaucoup plus sobre. C'est beaucoup plus. Mais au final, ça colle pas forcément non plus avec la musique, tu vois. C'est. Là, ça marche bien mieux. Là, franchement, c'est moderne, pour le coup. C'est peut-être plus actuel dans le metal prog de ce qui se fait en ce moment, là. Avec d'autres groupes, après j'aime pas trop m'amuser à comparer parce que chacun a son propre délire.
Ok.
Donc bon.
C'est aussi Stan qui vous a refait le design du logo?
Ouais, c'est lui aussi. Il m'en a proposé, je crois, trois différents. En fait, celui-là nous a bien plu, en fait, là, avec les espèces de flèches. Ça faisait vraiment le logo. Pas simplement typographie de groupe, tu vois.
Je suis peut-être, enfin j'ai peut-être tort, je suis peut-être naïf, mais j'ai toujours l'impression que quand un groupe change de logo, Il y a une volonté de changement, pas d'identité, mais il y a un signe plus fort que juste un changement de graphie. Donc tu disais...
De toute façon, ouais, ça va avec. Comme je te disais tout à l'heure, on a remis le groupe à plat. C'est pour ça aussi qu'on voulait jouer que des nouveaux morceaux, qu'on avait plus trop envie de jouer ce qu'on a fait avant, même si on aime ça. Je veux dire, nos albums, ils sont là, ils existent, ils sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc il y avait vraiment cette volonté de faire peau neuve.
D'accord.
Du coup, c'est ça, avec l'idée de faire un nouveau logo. Quand on lui a confié le graphisme, on lui a demandé aussi de nous faire ce nouveau logo. C'est pas lui qui a proposé, en fait, c'est nous qui lui avons demandé. Parce qu'on avait envie, du coup, bah, tant qu'à faire, en profiter, bon, bah, on est en train de se renouveler, on veut renouveler notre style, on reste le même groupe, on reste un Memories, on reste du métal progressif. Mais vraiment, la musique, pour nous, était différente, une nouvelle approche. Du coup, bah, nouveau logo, tant qu'à faire.
D'accord, non, mais je comprends. Toutes ces dernières années, bon, vous avez régulièrement monté sur scène, comme je disais, c'est important pour vous. Donc vous avez partagé la scène avec des groupes de, je dirais, différentes catégories, des très confirmés, des en développement comme vous. Est-ce que, voilà, en partageant des scènes, en voyant les autres travailler, est-ce que ça fait progresser? Vous avez appris des choses en voyant les autres?
Ouais, forcément, tu apprends toujours de tes confrères sur certaines choses. Il y a un échange, on va dire. Eux peuvent voir des trucs avec toi, toi tu vois des trucs avec eux. Il y a toujours un échange. Bon, on est quand même resté surtout avec des... On est resté quand même sur la région lyonnaise, donc tu connais rapidement, on va dire, les groupes avec qui tu joues. Malgré qu'il y ait beaucoup de groupes, avec notre style de musique, tu pouvais pas non plus jouer avec n'importe qui. Quand ça nous est arrivé de faire des concerts avec des groupes un peu death metal ou hardcore, bon, c'était trop contrasté, quoi. Pour le coup, ça marchait pas forcément. Donc c'était pas très intéressant comme échange. Mais on a eu d'autres, vraiment de très bons souvenirs, hein, qui restent, ouais, c'est sûr. Et puis il y a un échange entre musiciens. Après, c'est pas toujours évident. C'est... Le metal, il y a un peu un côté... Il y a toujours une compétition, en fait, dans le métal en France. Enfin, je dis en France parce que je suis français, c'est pareil dans les autres pays, j'en sais rien, mais moi je le ressens comme ça, en fait, quand je fais des concerts, quand je rencontre d'autres groupes, même si humainement ça va coller, il y a quand même un aspect un peu de challenge. Ouais, j'ai envie d'en mettre plus plein la gueule que toi, il y a un peu trop à ce niveau-là, tu vois, c'est un truc qui me dérange, moi, la langue.
Ok, je comprends. Donc comme tu disais, vous avez sorti un clip pour Exile. Alors le clip est assez très réussi. Il y a un mélange donc de musiciens en action et d'un scénario qui se déroule en parallèle.
Ouais.
Alors déjà, où vous avez tourné les parties où vous apparaissez vous dans cette espèce de bâtiment abandonné, enfin on sait pas trop.
Ouais, bah en fait c'est une rotonde, c'est la rotonde de Grigny dans notre région, hein, en région Rhône-Alpes. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une rotonde, c'est une espèce de plateforme où ils réparaient des trains, en fait.
Ouais.
Donc c'est un truc assez bien costaud, hein, parce qu'il y avait des trains antiques qui y passaient. C'est très vaste, puis désaffecté depuis des années, donc ça a eu le temps de bien dépérir, donc ça marchait bien avec l'idée du clip de jouer dans un monde dévasté, quoi, qui a été abandonné par l'homme, et où la nature petit à petit reprend le dessus. C'était le lieu des parties live, c'était cette fameuse rotonde.
Que vous connaissiez de... C'est des recherches ou vous connaissiez ou...
Ça, c'est le travail de Blockade, en fait, avec qui on a fait le clip.
D'accord.
On leur a expliqué le concept, on leur a donné le texte d'Exile, voilà, ça parle de... En gros, de cette nature qui a été trop souillée par l'être humain et que maintenant l'être humain, faut qu'il se barre, faut qu'il laisse place un peu à la mère nature qui leur prend ses droits, tu vois. C'est un texte assez engagé, en fait, hein, sur l'écologie, hein, c'est complètement assumé même. Et du coup, suite à ça, voilà, avec du texte, ils ont fait leur recherche, ils ont fait leur sauce, ils ont proposé une idée de scénario, et notamment des lieux de tournage, et ça, on n'a pas eu trop difficile, en fait, hein. On a vu les photos directes, on s'est projeté là-dessus, on s'est dit, ouais, ça peut être carrément cool, il y a moyen de faire des belles lumières, des contrastes assez sombres, justement, parce que ça reste quand même une musique assez mélancolique. Donc c'était vraiment le boulot de Blockade.
Ça fait quoi, une journée de tournage pour votre partie à vous?
Ouais, c'est ça, une journée pour nous, puis une journée pour la partie scénarisée avec le petit garçon. Là, pour le coup, c'était tourné au ce qu'ils appellent le gouffre de l'enfer. C'est un vieux barrage abandonné aussi. Je ne sais plus dire exactement à quel endroit, ça reste dans la région Rhône-Alpes aussi. Hein. Et là, c'était un autre jour. C'était un jour différent. On va dire deux jours de tournage.
D'accord. Tu te souviens, juste pour savoir, combien de fois vous avez joué le titre pour votre partie à vous?
Ouais, combien de fois en tout? Alors déjà, peut-être il y a des plans individuels, donc chacun on a dû bien jouer au moins 3-4 fois. Puis ouais. Après, au moins autant tous ensemble. Donc c'est simple, ouais, je sais pas, une vingtaine, même plus d'une vingtaine de fois, ouais.
Alors, et même si on est content du résultat, c'est pas fatigant à force?
Ouais, mais après, tu sais, c'est comme un concert d'adrénaline, en fait. Donc même si tu joues toujours le même morceau, t'es content parce que c'est pour la bonne cause, parce que t'es en train de tourner un clip, quoi.
D'accord.
Donc c'est... Puis bon, il y a quand même, voilà, en tout 20 fois, mais toutes les parties individuelles, moi, je l'ai tourné, en fait, que 7-8 fois. Parce que mes 3-4 fois tout seul et mes 3-4 fois en groupe.
Ouais.
Tu vois, plus après d'autres plans un peu aléatoires, où des fois, ils se baladaient et on jouait en fond, histoire qu'ils aient des plans, donc ouais. Enfin, si tu cumules le tout, ça fait pas, ouais, entre 15 et 20 fois, je dirais.
Tu disais, vous, pour cet album, vous avez vraiment tout fait pour passer un cap. Pour toi, c'est le clip le plus pro que vous avez jamais fait?
Mais c'est notre seul clip, en fait. C'est le premier. C'était aussi le moment, quoi. On s'est dit, tant qu'à faire, on sort le grand jeu, on s'est déchiré sur la prod, on va se déchirer aussi sur le clip. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez indispensable, quoi. Si t'as pas un bon visuel qui pète bien, t'as moins d'impact, quoi. T'as moins de vues. Ça, je veux dire, je sais pas, YouTube, quoi, c'est un outil assez formidable pour ça, pour se reconnaître. Donc il fallait faire un clip à la hauteur de nos exigences et de l'exigence qu'on a eu pour faire l'album.
D'accord.
Et du coup, c'est le premier qu'on fait, en fait. On n'a pas eu l'occasion d'en faire pour les précédents albums.
Ok. Je suis quand même surpris parce que donc il y a eu un peu la grande folie des clips, je sais pas, dans les années 80, années 90, parce qu'il y avait MTV, VH1, MCM, etc. Puis après, une partie de ces chaînes ont un peu périclité, ou voilà. Donc il y a eu un grand creux où tout le monde disait, bah, finalement, l'outil vidéo est plus très utile. Et maintenant, c'est reparti avec YouTube. Mais c'est vraiment pour vous un outil fort pour faire connaître le groupe?
Ouais. Bah, en fait, déjà, l'outil fort de base, c'est Internet. Donc, qui dit Internet, dit Facebook, YouTube. Donc, ouais, c'est des outils indispensables, en fait. Enfin, franchement, moi, le premier, en tant qu'auditeur potentiel, que voilà, que spectateur ou quoi, je vais me renseigner sur un groupe, j'entends parler d'un groupe, je vais sur YouTube, je vais voir s'ils ont un clip, parce que déjà, je colle une image sur leur musique, tu découvres un peu plus leur univers, tu vois, en faisant ça.
D'accord.
Franchement, hein, sans te mentir, on a mis autant de moyens nécessaires pour l'album comme pour le clip.
D'accord, ok. Vous en avez d'autres de prévus, de clips, ou là vous attendez, parce que ça a quand même un coup?
Ouais, on va devoir attendre, déjà pas pour faute de budget, hein, parce que bon, on reste quand même un groupe, on a tous des vies à côté, on a tous encore notre boulot, ou pas d'ailleurs, où on trie à droite à gauche, enfin, il faut vivre, quoi. Donc il y a un moment, la musique c'est bien, mais tu peux pas malheureusement faire des clips à tour de bras, c'est quand même un sacré budget.
Ouais,
donc là, dans l'immédiat, non, la priorité ce serait plus justement de faire des concerts, tourner un peu, et puis surtout, pouvoir promouvoir cet album. C'est qui dit après, éventuellement vente de l'album, éventuellement budget pour un clip, quoi.
Ok, tu me tends la perche. Qu'est-ce qui est prévu justement au niveau concert et scène dans les semaines ou mois qui viennent?
Bah là, on a un concert pour lancer l'album. Alors, ça sera le 24 novembre au Warm Audio à Décines, dans la région lyonnaise.
D'accord.
Où ça va vraiment être le concert charnière, en fait, pour lancer l'album Paradox. Où, encore une fois, on assume à 100% ce nouvel album. Du coup, on a une setlist entièrement composée du morceau de l'album, extrait cet album. Et puis, après, par la suite, Christophe de Do It, qui nous manage, il essaie de nous trouver des plans qui devraient suivre derrière. On n'a encore rien d'officiel à annoncer en termes de date, mais il voit éventuellement avec des tourneurs, ou éventuellement sur le festival pour l'été prochain. C'est en train de se mettre en place.
D'accord.
La première date à retenir, c'est vraiment ce 24 novembre au Warm Audio.
Ok. Le scénario idéal serait de pouvoir décrocher une première partie lors d'une tournée?
Ouais, ça serait carrément cool. C'est vrai que sans parler de faire notre tournée, juste suivre un groupe qui a déjà de la bouteille et qui fait des bonnes salles avec des grosses capacités, même si on doit jouer 20 minutes au début, ça serait déjà un pas énorme pour nous de pouvoir faire une telle expérience, quoi.
D'accord. D'accord. Juste une dernière question pour terminer, parce que l'heure passe. Quand tu vois les sets, les instruments d'un Portnoy ou d'un Mike Mangini, là, où ils sont entourés de je sais pas combien de
ouais.
Voilà. Ça, c'est un truc qui te fait rêver ou pas plus que ça?
Alors, pas du tout. Alors, moi, je suis vraiment à l'antithèse de cette surenchère d'instruments. Au contraire, même au fil des ans, j'ai réduit mon kit de batterie, quoi. C'est pour te dire, alors, moi, c'est vrai que la double grosse caisse, c'est entouré de 14 tomes et 45 balles, non, c'est pas pour moi. Je pense que j'ai pas besoin de ça, en fait, pour jouer de la batterie. C'est pas mon...
Et tu vois ça comme un espèce de spectacle visuel, ou... Enfin,
ouais, la plupart, ouais, on va pas se mentir. Après, il y en a qui s'en servent à bon escient, hein, qui... Tu prends un gars comme Terry Bozzio, il a son truc, là, qu'il appelle le Microcosmic Orchestra, ou je sais pas quoi, bon, c'est un délire particulier, mais... Il le joue comme ça, parce qu'il fait plein de sonorités, c'est un style particulier. Mais quand tu fais du métal, même si c'est du prog, je veux dire, il y a un moment, il faut partir dans des délires pareils. Là, Mike Portnoy, à l'époque de Dream Theater, il avait un gong dans son dos, c'était juste pour la fin d'un morceau en particulier du concert, il mettait un coup de gong. ouais, c'était ouais. positif. Mmh. Parce qu'est-ce qu'on aurait pu le sampler, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. Mais après, il a les moyens, il se plaise. Donc, respect. Mais moi, pour le coup, je veux dire, bon, bah, si après, à l'avenir, il y a plus de moyens, c'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir un truc monstrueux. Parce que dans mon jeu, moi, je suis inspiré par des batteurs actuels qui ont des clips beaucoup plus réduits. Tu vois, je joue avec deux tomes. J'ai 3-4 cymbales. Et je joue sur les faits, en fait. Et je joue sur l'inventivité du rythme. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 14 tomes et 14 cymbales, quoi. C'est pas. C'est vraiment pas mon truc après. Chacun sa façon de jouer, quoi.
Non, non, mais tant mieux. Et ton banquier te dit merci.
Ouais, si tu mets ma bagnole, en fait, parce qu'à un moment, faut la cymbaler aussi, la batterie, quoi.
C'est pas faux.
Dans le do-it-yourself, t'as pas de rodi, quoi. Même si des fois, un pote te file un coup de main.
Ah, je suis sûr que si Mangini ou Portnoy devait la monter, il serait beaucoup plus simple.
Ouais, bien sûr, hein, tu m'étonnes. Mais ils vont pas venir avec un tourbus juste tout seul, quoi. Non, c'est ça, hein. Moi, je dis, je roule avec une Renault Mégane, ma batterie, faut qu'elle rentre dans ma Renault Mégane.
Voilà, ouais, c'est d'accord.
Donc, faut pas. Non, mais bon, voilà, il y a l'aspect, ouais, il y a l'aspect pratique, il y a l'aspect financier aussi, parce que quand tu pètes une cymbale, ça fait déjà mal. Mais si t'en as plein à remplacer, au bout d'un moment, ça fait très mal. Et puis bon, comme je te disais, moi, ça fait partie de mon jeu, en fait. J'ai pas besoin d'avoir un truc énorme pour jouer de la batterie.
Ok, c'est compris. Bah écoute, merci beaucoup pour cette conversation.
Et ouais, puis. Et merci à toi également.
Et puis, tous mes voeux pour la suite.
Eh ben super, merci beaucoup.
À bientôt.
Allez, à bientôt, ciao.
Ciao.